Chers amis des cellules, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui l'explication de la cinquième étape du processus d'évangélisation, l'explication. La semaine dernière, nous nous étions penchés sur les objections concernant Dieu et comment y répondre. Cette semaine, nous nous pencherons sur l'origine du refus et de l'objection que nos interlocuteurs peuvent nous opposer. Puis nous nous pencherons sur les critiques les plus communes contre l'Église, et comment y répondre. Et enfin, nous reprendrons quelques règles pour agir avec bonté au cours de l'explication. On peut distinguer 10 sources au refus et à l'objection. 10 sources sur lesquelles nous pouvons avoir une action. La première, c'est l'ignorance. L'ignorance sur Jésus et l'histoire du salut. Il y a donc une connaissance à transmettre. La deuxième, ce sont des convictions erronées. Elle a des idées fausses ou infondées sur Jésus. Troisième source de refus ou d'objection, c'est le contre-témoignage de quelques chrétiens. Il a été témoin de comportements de chrétiens qui allaient à l'encontre de l'enseignement de Jésus. Quatrième source, le manque d'une authentique compréhension. Ben oui, entendre l'évangile n'est pas la même chose que l'écouter et le comprendre. On peut avoir entendu une parole totalement juste, mais pourtant on n'a pas eu le temps ou on n'a pas réussi à approfondir pour se l'approprier, et donc une compréhension authentique de ce qui a été donné n'existe pas ou n'existe pas encore. Le cinquième élément qui provoque refus et objection, c'est le refus de l'autorité du Seigneur. En fait, on n'est pas disposé à mettre Jésus au centre de notre vie. Et de fait, c'est un travail long et difficile, un travail que nous vivons nous aussi, et pour lequel nous devons nous appliquer fidèlement. Il n'est pas simple de reconnaître l'autorité du Seigneur, de le mettre au centre de notre vie, parce que cela bouscule bon nombre de nos habitudes. Cela nous oblige à une conversion, et ce n'est jamais simple. Une sixième source de refus et d'objection, ce sont les conditionnements de la famille et du milieu. Assurément, Jésus n'a pas l'intention de détruire les liens familiaux, qui ont été d'ailleurs donnés par Dieu lui-même, mais il ne peut admettre qu'ils prévalent sur sa propre place dans notre vie. Tout doit naître de Jésus et tout doit se faire en fonction de lui. Septième élément, le manque de confiance. C'est-à-dire le fait de ne pas croire à l'amour inconditionnel et personnel de Dieu et à sa volonté de miséricorde et de pardon. Huitième élément, l'incapacité d'abandonner les habitudes de péché. C'est succomber passivement aux tentations en considérant le péché comme une réalité irrévocable et définitive. Pour vaincre, il est important d'accomplir quelques actions contraires au péché et aux vices qui nous assaillent. Par exemple, je suis habitué à jurer. Eh bien, dès que je m'en aperçois, je m'impose une brève prière vocale et un acte de charité sous la forme d'un don en argent, selon un choix arrêté au préalable. Ainsi, l'abandon de ce vice sera facilité à la fois par le déclenchement du mécanisme psychologique qui me fait associer au juron le déboursement d'argent, et par la grâce de Dieu qui agira en moi avec le concours de ma bonne volonté. Neuvième élément, l'indécision. C'est lorsque l'on remet toujours à plus tard la rencontre avec Jésus. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 1 et 2, dit ceci: « Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, le Jésus, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit « Au moment favorable, je t'exauce, et au jour du salut, je viens à ton secours. » Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voilà. L'indécision, c'est ne pas croire que c'est aujourd'hui le moment favorable, aujourd'hui le moment où le Christ nous donne la grâce de la conversion. Enfin, dixième source qui explique le refus et l'objection, c'est l'intellectualisme. C'est le fait de connaître Jésus seulement avec la tête, et non avec le cœur. Or, pour une bonne connaissance de Dieu, il faut que l'adhésion du cœur précède le travail de l'intelligence. Penser que seul le travail de l'intelligence suffira est une erreur profonde. Il faut qu'il y ait cette union du cœur et de l'intelligence. 10 éléments, donc, dans lesquels le refus et l'objection de Jésus peuvent trouver leur source. Je les reprends. L'ignorance, les convictions erronées, les déceptions face au comportement de chrétiens, le manque d'une authentique compréhension, le refus de l'autorité du Seigneur, les conditionnements de la famille et du milieu, le manque de confiance dans l'amour inconditionnel et personnel de Dieu, l'incapacité d'abandonner les habitudes de péché, l'indécision, enfin l'intellectualisme. Regardons à présent quelques critiques communes contre l'Église et comment y répondre. Une critique classique, à l'Église, ils ne peuvent parler d'autre chose que d'argent, argent, argent, et puis avec toutes les richesses qu'a le Vatican. En fait, très souvent, une telle déclaration est un alibi pour cacher la vraie raison de l'éloignement. Alors comme c'est une attitude très répandue de ne pas vouloir débourser d'argent, l'alibi devient crédible et la motivation est facilement partagée. Mais en fait, la vraie question est ailleurs. Voici quelques réponses possibles sur ce sujet. Premièrement, c'est qu'une paroisse a des problèmes financiers identiques à ceux d'un foyer domestique. À ceci près, ses dépenses sont plus importantes que celles d'un foyer, et ses seules recettes proviennent habituellement des dons des fidèles. Qui paiera ses services si les paroissiens ne le font pas? Expliquons aussi que nous considérons notre contribution comme un acte de foi, une façon aussi d'exprimer notre gratitude pour tout ce que la communauté paroissiale fait pour nous. Et puis, dans un certain sens, la maison de Dieu est aussi ma maison. C'est donc pour moi un devoir d'en prendre soin, en participant selon mes possibilités, et d'ailleurs ce n'est pas toujours ni seulement avec de l'argent. Oui, si quelqu'un pose des questions sur la dîme, expliquez ce qu'on entend par dîme. L'Écriture parle du devoir du peuple d'Israël de verser la dîme à Dieu. C'est au Deutéronome, au chapitre 14, le verset 22. Verser la dîme à Dieu, cela veut dire partager avec Dieu toute notre vie, et donc aussi nos richesses. Verser la dîme, pour nous, signifie participer fidèlement, selon ses possibilités, aux dépenses de la communauté. C'est la fidélité qui compte, parce qu'elle permet à la communauté de vivre. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au sujet du 5e commandement de l'Église, subvenir aux besoins de l'Église, nous lisons, les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun selon ses possibilités. Souvenons-nous encore de cette parole de saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 7 et 10, que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture vous fournira aussi la semence, la multipliera et fera croître les fruits de votre justice. Ou encore ce que dit saint Luc au chapitre 6, verset 38, « Tout vient de Dieu et il ne se laisse pas vaincre en générosité. Donnez et on vous donnera. » Deuxième objection classique au sujet de l'Église, « Je suis en désaccord avec l'Église sur beaucoup de sujets. » Alors j'ai décidé d'arrêter d'y aller. En fait, souvenons-nous que c'est Jésus qui a voulu l'Église et qui l'a fondée. Il l'a voulu pour continuer son œuvre et porter son salut à tous les hommes. Et l'Église prend au sérieux le mandat que Jésus lui donne, en Matthieu 28, verset 20, « Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a dit à l'Église, représentée par saint Pierre, en Matthieu 16, c'est les versets 18 à 19, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, tout ce que tu déliras sur la terre sera délié aux cieux. » Les successeurs de Pierre, les papes, ont autorité pour enseigner sur les questions de foi et de morale. Nous pourrons dire aussi, tant de questions intéressantes, importantes, font l'objet d'un enseignement de la part de nos prêtres et sont approfondies dans nos rencontres de cellules. On peut se témoigner que on ne connaissait pas forcément bien la position de l'Église sur de nombreux points, mais que en participant aux rencontres des cellules, on apprend. L'Église catholique est souvent la seule à avoir une position sérieuse et ferme concernant des questions relatives à la vie et aux valeurs essentielles de l'humanité. Retenons une chose, c'est que le plus important n'est pas tant d'avoir une réserve de réponses qui nous garantissent la sécurité, mais d'avoir un cœur bon et compréhensif pour écouter ce que les gens nous disent, un cœur bon et compréhensif pénétré d'une doctrine sûre qui nous permette aussi d'accueillir et de répondre à leurs paroles. Il ne s'agit pas simplement de donner une doctrine, mais d'avoir un cœur qui puisse vibrer à l'unisson du cœur du frère et une intelligence qui puisse répondre en vérité à son intelligence. Une troisième objection par rapport à l'Église est lorsque les gens disent « Je n'ai pas besoin de l'Église, je prie à ma façon. » Alors assurément, c'est une chose excellente que de prier personnellement, mais la prière a deux dimensions, une dimension personnelle et une dimension communautaire. La prière personnelle exprime la relation entre Jésus et moi. La prière communautaire exprime ma relation avec Jésus à travers les frères. Un être humain, c'est un être dans la relation. Il est à l'image du Dieu Trinité, du Dieu qui est communion, du Dieu qui est relation. Notre prière n'est donc pas simplement une question individuelle. Il y a une dimension individuelle, mais il y a aussi une dimension communautaire. Et fondamentalement, Dieu est celui qui nous apprend à prier, et le Christ nous indique à la fois cette prière personnelle où l'on se retire au fond de sa chambre, où Dieu voit dans le secret, mais il est aussi celui qui nous convoque en disant « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Il a invité ses apôtres à célébrer sa mort et sa résurrection chaque semaine, et le peuple de Dieu se rassemble parce que le Christ le lui demande et parce qu'il se rend à ce moment-là présent d'une façon toute particulière. Le Dieu qui s'est fait chair nous apprend aussi comment le prier, et cette prière comprend la prière communautaire. Quatrième objection que l'on peut entendre sur l'Église, je ne supporte pas qu'il y ait autant d'hypocrites dans les églises. Ils vont à l'église pour se montrer, mais quand ils sortent, ils se comportent mal. Peut-être certains ajouteront, j'ai été un jour mal reçu par un prêtre, alors je me suis éloigné. Souvenons-nous que tous les chrétiens, même ceux qui vont à l'église, ce sont des pécheurs. Et c'est par les mérites de Jésus que nous pouvons devenir des pécheurs pardonnés. C'est ça justement le salut, c'est que Dieu accorde sa grâce à des hommes pécheurs. L'Église s'adresse à des hommes pécheurs, nous ne sommes pas encore au ciel. Si nous nous arrêtions à observer les mauvaises actions des hommes sans regarder à la miséricorde de Dieu, c'est vrai, nous serions toujours malheureux et hypocrites. Et Jésus nous dit à tous, ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. C'est en Luc 6, le verset 37. L'Église est sainte parce que le Christ est saint, mais elle est composée d'hommes pécheurs, d'hommes qui sont en chemin vers la conversion. Et cela est aussi le cas des prêtres qui ont besoin eux aussi de se convertir. Alors, dans le cas où quelqu'un nous dit « j'ai été mal reçu par un prêtre, alors je me suis éloigné », il y a une petite règle d'or, c'est de ne jamais prendre parti. Ne commettons pas l'erreur de défendre ce qu'a fait le prêtre, mais écoutons avec amour, associons-nous à la souffrance du frère. Si nous avons vécu une expérience analogue ou si nous connaissons quelqu'un qui l'a vécu, expliquons comment Jésus, à travers la prière, nous a aidés à pardonner. Chers amis, je me rends compte que cet enseignement devient très long, et c'est du coup, c'est par écrit que vous pourrez regarder quelques règles pour agir avec bonté au cours de l'explication. Je vous souhaite de bons échanges.